Bonjour à tous, frères et sœurs en Christ. Nos enfants sont-ils tous, à présent, saints? Comment traiter nos enfants adultes, notamment quand ils ne sont pas convertis? Les enfants des chrétiens sont-ils tous saints? Comment vous entendez-vous avec vos enfants adultes? Quel rapport avez-vous avec eux? De bons rapports ou des rapports tendus? En fait, les voyez-vous souvent? Pas du tout? Que pense-t-il de l'Église? S'intéresse-t-il à la vérité? Sont-ils membres? Sont-ils convertis? Il importe que nous ayons la bonne optique, que nous accomplissions notre devoir de chrétiens, que nous soyons charitables, miséricordieux, et que nous n'entravions pas ou ne fassions pas obstacle au projet futur que Dieu a pour eux. Par manque de tolérance, excès de zèle ou manque de sagesse. La situation de nos enfants adultes et nos rapports avec eux dépendent de leur choix dans la vie. Sont-ils à présent saints, pour reprendre une expression que l'apôtre Paul a utilisée? Ou sont-ils du monde ou profanes? Cela dépend d'eux, n'est-ce pas? Un certain nombre d'enfants de membres convertis sont dans l'Église. D'autres ne le sont pas. Et dans certains cas, sont même loin de l'être, ayant choisi une vie dissolue et même mondaine. Leur situation dépend de plusieurs facteurs. Premièrement, leur éducation, chrétienne ou non. Deuxièmement, leur caractère. Et troisièmement, leur choix personnel. Si nous sommes entrés dans l'Église quand ils étaient déjà adultes, ou presque, il est bien évident que nous ne leur avons probablement pas donné une éducation chrétienne biblique. S'ils ont grandi dans l'Église et que nous les avons éduqués chrétiennement, une porte leur est ouverte pour leur conversion dès qu'ils deviennent adultes, d'elles qu'ils peuvent se rendre compte de l'importance de leur choix. Néanmoins, nous ne devons pas nous attendre à ce qu'ils nous suivent et se convertissent automatiquement. Leur accès à Dieu dépend d'eux. C'est leur choix. Un choix qui est certes facilité par l'éducation que nous leur avons donnée, mais c'est malgré tout leur choix. Nombreux sont les enfants de membres et de ministres ayant grandi dans l'Église qui ont décidé de ne pas poursuivre, pour le moment, la voie chrétienne. Ce choix, nous devons le respecter. En tant que membres convertis et à part entière dans l'Église, nous nous attendons généralement à ce que nos enfants, le moment venu, se fassent baptiser, reçoivent le Saint-Esprit et soient convertis. Dieu a donné à tout être humain ce qu'on appelle le libre arbitre, la liberté de choix. Raison principale, il veut que notre attachement à lui et à sa voix vienne du cœur. Que ce soit une décision volontaire, sincère et mûrement réfléchi de notre part. C'est une décision que doivent prendre personnellement nos enfants, sans qu'ils se sentent forcés ou menacés. Nous qui sommes dans l'Église, nous nous basons souvent sur un passage des Proverbes. Proverbes 22, 6. Reportons-nous à ce passage, si vous le voulez bien. Proverbes chapitre 22 et le verset 6. instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Quelle est la voie qu'il doit suivre? Cela veut-il dire que si nous enseignons fidèlement à nos enfants la voie divine, ils entreront automatiquement dans l'Église, se feront baptiser, recevront le Saint-Esprit, se convertiront et croisseront ou croîtront fidèlement, spirituellement, ne se détournant jamais de la vérité? Nos enfants suivent-ils automatiquement notre exemple? Nous avons 5 enfants. Nous leur avons donné tous la même éducation chrétienne. Ils sont tous adultes depuis plusieurs années. 3 sont dans l'Église, solides, convertis, portant des fruits. 2 ne le sont pas. Il importe de bien comprendre Proverbe 22, 6. Il est intéressant de noter ce qu'on peut lire sur un site en ligne appelé Bible Hub ou BibleHub.com, sur lequel on peut trouver diverses traductions anglaises de ce passage. On remarque notamment que dans la Young's Literal Translation, la traduction littérale de Young, ce verset est rendu comme suit, et je cite, « Instruis le jeune à propos de sa voix, ou en lui expliquant sa voix et ses conséquences, et même quand il deviendra vieux, il ne s'en écartera pas. » Ce site propose également un commentaire du Pulpit Documentary, un commentaire pour les prédicateurs, pour les pasteurs, à propos de Proverbe 22:6. Et on peut lire ce qui suit. « Instruit l'enfant selon la voie qu'il devrait suivre. » Et le mot traduit par « instruit », l'hébreu « shanak », signifie premièrement « mettre quelque chose dans la bouche ». Intéressant. Sous-entendu pour qu'on y goûte et qu'on l'ingeste et le digère. En d'autres termes, cela veut dire « nourrit moralement, donne une formation élémentaire, équipe dans le sens d'équiper, forme ». Dans l'original hébreu, il est question littéralement d'éduquer l'enfant en fonction de sa voix. Ah, intéressant. Sa voix peut vouloir dire 2 choses. Ou bien cela s'applique à son appel ultérieur, à sa situation future, ou bien il est question de son caractère, de sa manière innée à lui de faire les choses, de ses aptitudes. Il est plus logique de voir dans cette maxime une injonction à tenir compte dans l'éducation de l'enfant de, premièrement, son caractère, deuxièmement, de sa nature, troisièmement, de ses facultés, quatrièmement, de ses aptitudes et cinquièmement, de son tempérament. Si, quand il est jeune, un enfant est ainsi éduqué, quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Et ainsi, son éducation, en tenant compte de ses aptitudes, de ses particularités, de son comportement et même de ses manies, portera des fruits pendant toute sa vie. Cela deviendra une seconde nature. Il fera cela instinctivement et cela lui restera. Pour résumer, la meilleure traduction de Proverbe 22:6 est la suivante. Éduque l'enfant en tenant compte de ses tendances, de ses prédispositions, de ses habitudes, de ses manies, de son caractère et de sa personnalité. Explique-lui où mène sa voie et ce qu'il doit changer. Et quand il sera vieux, il continuera à se conformer à l'éducation qu'il a reçue. C'est en effet là l'intention de ce verset. Ce verset ne dit pas, comme on l'a cru souvent, « Instruis l'enfant selon la voie divine ». C'est pas ce que cela dit. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Il n'est pas question de la voie divine. Bon, bien sûr, c'est sous-entendu, mais ce verset ne précise pas cela. Il n'est pas apparemment question ici uniquement de la voie divine, mais aussi de la voie que doit suivre l'enfant, laquelle est en grande partie basée sur son caractère et sa personnalité. Ce proverbe est de Salomon. Son fils Roboam, nous dit la Bible, se détourna de l'Éternel au bout de quelques années. Reportons-nous à 2 Chroniques 11, 21. 2 Chroniques chapitre 11 et le verset 21. Deux Chroniques 11, 21. Roboam aima Maaka, fille d'Absalom, plus que toutes ses femmes et ses concubines. Ses femmes, pluriel, ses concubines, car il eut 18 femmes et 60 concubines. Ouh. Et il engendra 28 fils et 60 filles. Est-ce que c'était conforme à l'éducation qu'il avait reçue? Deux Chroniques 12, maintenant 2 Chroniques 12 et le verset 20. Un chapitre plus loin. 2 Chroniques chapitre 12 et le verset 20. Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de l'Éternel. Et tout Israël l'abandonna avec lui, ce qui était souvent le cas dans l'Ancien Testament, dans l'histoire d'Israël. Ce que nous pouvons conclure de la lecture de ces deux versets, c'est que Salomon lui-même, bien qu'ayant écrit ce proverbe déclarant « Instruis le jeune à propos de sa voie, et même quand il deviendra vieux, il ne s'en écartera pas », n'a pas pu garantir que son fils Roboam suive toujours le droit chemin, une fois adulte. Bon, nous savons que ce proverbe est inspiré, et que c'est en fait Dieu qui nous dit cela, mais nous constatons aussi que Roboam a pris ses propres décisions et n'a pas nécessairement suivi les conseils de papa. Et nous ignorons dans quelle mesure Salomon s'est acquitté de ses responsabilités d'éducateur. Nous savons qu'il n'a guère brillé au niveau conjugal, ayant eu 1000 femmes. A-t-il aussi échoué dans l'éducation de ses enfants ? Revenons à Proverbe 22, 6. Consultons maintenant plusieurs versions françaises pour voir comment ce verset a été traduit. Dans la Bible en français courant, « Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie, il les conservera jusque dans sa vieillesse. » Ok. Dans la Bible de Darby, « Élève le jeune garçon selon la règle de sa voix. » Même lorsqu'il vieillira, il ne s'en détournera point. Dans la Bible de Jérusalem, forme le jeune homme au début de sa carrière. Devenu vieux, il ne s'en détournera pas. Dans la version Martin, instruit le jeune enfant à l'entrée de sa voie. Lors même qu'il sera devenu vieux, il ne s'en retirera point. Dans la Nouvelle Bible Second, initie le jeune homme à la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Dans la version Parole de vie 2000, donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années. Il les gardera même dans sa vieillesse. Dans la Second 21e siècle, éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Et dans la version Tob, nous finirons par cette version, donne de bonnes habitudes au jeune homme. En début de carrière, même devenu vieux, il ne s'en départira pas. Bon, faisons une synthèse de ces diverses traductions pour bien cerner le sens. Donne de bonnes habitudes à l'enfant dès l'entrée de sa vie, nous avons lu. Élève le jeune garçon selon la règle de sa voie. Forme le jeune homme au début de sa carrière. Instruit le jeune enfant à l'entrée de sa voie. Initie le jeune homme à la voie qu'il doit suivre. donne à un enfant de bonnes habitudes dès ses premières années et éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Bon, il y a d'autres traductions, mais elles rejoignent essentiellement ce que nous venons de lire. Ce que nous pouvons d'ores et déjà tirer de ce verset, c'est que nous devons donner à nos enfants de bonnes habitudes dès le départ et les aider dans la voie qu'ils doivent suivre. Il n'est pas clair s'ils deviendront automatiquement convertis, mais nous pouvons déjà en faire de bons et honnêtes citoyens, n'est-ce pas? D'où l'importance de l'éducation. Un jour viendra où ils comprendront la vérité, je dis bien comprendront et non pas apprendront. Il s'agit de deux choses différentes. On peut connaître la vérité sans toutefois la comprendre. Cela peut paraître bizarre, mais notre histoire dans l'Église l'a amplement démontré. Il est possible d'avoir une connaissance intellectuelle de la Bible, sans toutefois être convaincu de ce qu'elle déclare, et sans réellement la comprendre. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Une chose est certaine, Dieu veut que nous enseignions à nos enfants la bonne voie, sa voie. C'est notre responsabilité de parents. Et Dieu veut que nous les aidions dans la voie dans laquelle ils doivent marcher. Dieu avait confiance en Abraham. Il savait qu'il s'acquitterait de ses responsabilités parentales. Reportons-nous à Genèse chapitre 18, verset 18. Genèse 18 et le verset 18. Genèse 18, 18, Abraham deviendra certainement une grande et puissante nation, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Ouais, Abraham vivait une époque bien différente de la nôtre, où les enfants respectaient généralement beaucoup plus leurs aînés, surtout leurs pères. Et l'attachement des enfants, une fois adultes, était généralement beaucoup plus fort qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Reportons-nous à Deutéronome maintenant, Deutéronome chapitre 4 et le verset 6. Deutéronome chapitre 4 et le verset 6. Deutéronome 4, 6, vous les observerez, ces commandements, ces principes divins, et vous les mettrez en pratique. Vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples, qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Verset 9, « Seulement prends garde à toi. » Et veille attentivement sur ton âme tous les jours de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues et qu'elles ne sortent de ton cœur. Enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants. Il y a donc ici un risque, celui de l'oubli ou du rejet de cette voie. Une fois adultes, nous sommes tous individuellement responsables de nos décisions. Et nos enfants ont un choix à faire. Deutéronome 6, Deutéronome chapitre 6 et le verset 6. Puisque nous sommes dans le Deutéronome, Deutéronome 6, 6. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ça, c'est un principe très important pour nous autres dans l'Église, parce que nous avons dans l'Église des gens qui font les choses de leur cœur et d'autres qui les font superficiellement, des gens convertis et d'autres qui ne sont pas réellement convertis. C'est notre histoire. C'est l'histoire de l'Église de Dieu depuis des siècles. Premièrement, il faut que ces enseignements soient dans notre cœur, autrement dit que nous en soyons convaincus et que nous les approuvions à 100%. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Autrement dit, en toute occasion, continuellement. Deutéronome 11 maintenant, quelques pages plus loin, Deutéronome 11, Dieu revient souvent sur ce principe. Mettez dans votre cœur, Deutéronome 11, 18, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Autrement dit, intériorisez-les. Fondez votre vie sur elles, qu'elles soient la base de tout ce que vous faites. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez, verset 19, à vos enfants, et vous leur reparlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. C'est répété. Voilà ce que nous devons faire, frères et sœurs, inculquer à nos enfants les préceptes de l'Éternel, ses statuts et ses commandements et ses lois. Notre devoir est donc de bien enseigner. Mais l'une des clés essentielles sur lesquelles je veux insister, une des clés essentielles dans ce domaine est de donner le bon exemple. Le deuxième passage clé auquel nous devons nous reporter pour savoir si nos enfants sont automatiquement saints, on utilise souvent ce mot saint, mais je vais préciser un peu plus loin de quoi il s'agit en réalité. Sont-ils automatiquement saints quand ils atteignent l'âge adulte? Il y a un passage dans 1 Corinthiens 7 que nous devons étudier. 1 Corinthiens 7 et le verset 10. 1 Corinthiens 7 et le verset 10. Il faut comprendre ce sujet. Nos enfants sont-ils saints? Ok. À nouveau, je vais expliquer ce que Paul entendait par là un peu plus dans quelques instants. 1 Corinthiens 7, verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Il est question ici de conversion. Lorsque vous avez un mariage où il y a un croyant et un incroyant, une décision est à prendre en fonction de la situation. Est-ce que les parents s'entendent bien? Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Ah, voilà le petit passage sur lequel nous nous concentrons aujourd'hui. Mais continuons un peu, si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là, au moment de la conversion, pas à n'importe quel moment, au moment de la conversion. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Car sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou sais-tu si Dieu appelle ton mari maintenant? Vous savez, souvent, nous avons des membres qui estiment « Ah, je peux fréquenter quelqu'un à l'extérieur qui ne croit pas en Dieu et Dieu appellera cette personne. » Ce n'est pas comme cela que Dieu travaille. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est un autre sujet, incidemment. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Mais revenons pour les besoins de la cause sur le verset 14, car c'est le sujet qui nous intéresse ici. Que voulait dire Paul quand il disait « Le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari », mais plus spécialement, maintenant le restant de la phrase, « Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints ». Ok, c'est ce que nous avons dans la plupart des traductions, n'est-ce pas? Pour bien comprendre ce principe, il importe de définir ce que Paul entend par le mot « enfant », n'est-ce pas ? Enfant, bon. Dans l'original grec, le mot traduit par « enfant » est « tekna », et il décrit un enfant et non un adulte ou une personne d'âge mûr. Ensuite, il importe de bien comprendre ce qu'il entend par « pur » et « impur » et par « saint », car ces mots ne sont pas toujours bien traduits. Le mot « saint » En grec est le mot agia, H-A-G-I-A, qui signifie premièrement « mis à part pour Dieu ». C'est aussi traduit par « sacré » ou « saint ». Mais le sens le plus souvent, le sens principal, c'est « mis à part pour Dieu ». Donc nous voyons d'ores et déjà que cette traduction « saint » n'est pas nécessairement la bonne traduction, n'est-ce pas? Alors le sens est plutôt dans le contexte « mis à part pour Dieu ». Les enfants des parents convertis sont dans une catégorie spéciale, du fait que leurs parents sont dans l'Église et non comme n'importe quel enfant dans le monde. Et il est bon à cet effet de consulter plusieurs versions pour mieux cerner le sens de ce verset. On peut lire dans la Bible en français courant ce qui suit. Le mari non-croyant est proche de Dieu à cause de son union avec sa femme. De même, la femme non-croyante est proche de Dieu à cause de son union avec son mari chrétien. Et maintenant, autrement, vos enfants seraient considérés comme impurs, alors que, en réalité, ils sont proches de Dieu. Bien que nous citions rarement cette version qui paraphrase, je trouve cette traduction intéressante pour ce verset, pour cette partie du verset. Bon, dans la version Darby, on peut lire, et je cite, « Le mari incrédule est sanctifié par la femme et la femme incrédule est sanctifiée par le frère, son mari, puisque autrement vos enfants seraient impurs, mais maintenant ils sont saints. » Ok. Dans la version Osterwald, on peut lire « Le mari incrédule est sanctifié par la femme et la femme incrédule est sanctifiée par le mari. Autrement, vos enfants seraient impurs au lieu qu'ils sont saints maintenant. » Vous voyez que dans beaucoup de versions, il y a ce mot « saint » plutôt que « mis à part », ce qui n'est pas réellement une bonne traduction. Dans la seconde 21, le mari non-croyant bénéficie de la sainteté de sa femme. Et la femme non-croyante bénéficie de la sainteté de son mari. Autrement, vos enfants ne seraient pas purs alors qu'en réalité, ils sont saints. Bon, ces quatre versions suffisent. Prenons maintenant, pour mieux cerner le sujet, quelques versions anglaises. Et c'est moi qui traduis. Et on peut lire dans la Holman Christian Standard Bible ce qui suit. Le mari incroyant est mis à part ou sanctifié par la femme. Et l'épouse incroyante est mise à part pour Dieu par le mari. Sinon, vos enfants seraient corrompus alors que maintenant, ils sont mis à part pour Dieu. J'aime bien cette façon de tourner. C'est cela le sens. Ils sont mis à part pour Dieu. Ils ont, comme nous allons le voir, une porte ouverte, une occasion. Dans l'Aramaic Bible, in plain English, en anglais courant, on peut lire ce qui suit. L'homme qui est incroyant est sanctifié par l'épouse qui croit et la femme qui est incroyante est sanctifiée par le mari qui est croyant. Sinon, les enfants sont souillés alors que maintenant ils sont purs. Ah, souillés à la place de saints. D'après la Good News Translation, on peut lire ceci, le mari non croyant est rendu acceptable pour Dieu. Acceptable pour Dieu. Ah. Du fait qu'il est uni à son épouse et l'épouse non-croyante est rendue acceptable pour Dieu, du fait qu'elle est unie à son mari chrétien. Si ce n'était pas le cas, leurs enfants seraient des païens, tandis qu'ils sont acceptés par Dieu. Dans les versions anglaises, ils ont tendance à traduire davantage, à mieux traduire cette partie de verset. Dans le Weymouth New Testament, le Nouveau Testament de Weymouth, on peut lire ce qui suit. Dans de tels cas, le mari non-croyant est devenu et est saint grâce à son union à une femme chrétienne et l'épouse non-croyante est sainte grâce à son union à un frère chrétien. Autrement, vos enfants ne seraient pas saints. Néanmoins, en fait, ils ont une place parmi le peuple de Dieu. Vos enfants ont une place parmi le peuple de Dieu. Ils sont invités, autrement dit. Souvenez-vous que c'est Dieu qui appelle. Et il nous rappelle, il nous appelle en son temps. Et immanquablement au meilleur moment. Jean chapitre 6, verset 44. Jean chapitre 6, c'est le verset 44. C'est un verset si important que la plupart des chrétiens dans le christianisme moderne ou traditionnel ne prennent pas au sérieux. Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Personne ne peut venir à Dieu tant que le Père ne l'a pas appelé. Et je le ressusciterai au dernier jour. Verset 65, ce concept, cette idée est répétée. Verset 65, même chapitre. C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Des millions de gens, sciemment ou non, ne croient pas à ce verset et estiment qu'ils peuvent se placer dans l'Église de Dieu comme ils le veulent et quand ils le veulent. C'est faux. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Et n'essayons pas de lui forcer la main. Pour ce qui est de forcer nos enfants, ou des gens du monde, car le principe s'applique aussi dans ce cas, pour ce qui est de forcer nos enfants ou des gens du monde qui ne s'intéressent pas à la vérité, comme le dit le proverbe, vous pouvez mener un cheval à l'abreuvoir, mais vous ne pouvez pas l'obliger à boire. Ce que Dieu veut, c'est que nous allions à lui de tout notre cœur. Et non parce que nous y sommes forcés ou obligés. Nous devons être convaincus que c'est la seule voie. Nos enfants doivent être convertis, convaincus que la voie divine est la seule voie et la voie qu'ils désirent suivre. C'est plus facile pour eux vu que leurs parents sont dans l'Église et qu'ils ont grandi témoins des fruits de la conversion de leurs parents. Mais il faut que ce soit leur décision. Je me souviens de l'ambassadeur collège où j'ai passé 4 années, il y a un certain nombre d'années. Et nous avons eu une réunion de la classe il y a quelques années. Et sur les 70 étudiants qui étaient à l'ambassadeur collège dans ma classe, on peut à peine trouver 5 personnes qui sont restées dans la vérité. Bon, pourquoi ? Pourquoi ? Et sur ces 5 personnes, incidemment, il y en a un certain nombre qui observent le dimanche maintenant, qui n'observent plus les jours saints, etc. Pourquoi ? Parce que souvent les parents ont insisté à ce que leurs enfants aillent à l'ambassadeur collège. Comme souvent, les parents insistent pour que leurs enfants entrent dans l'Église et se fassent baptiser. Or, c'est leur décision. La porte est ouverte. Mais cela m'a donné beaucoup à réfléchir. Sur 70 étudiants, mettons 5 au maximum qui sont encore dans la vérité, et beaucoup nous disaient « Oh, j'ai perdu mon temps à l'ambassadeur collège. » Certains ont des très bonnes situations, ils sont présidents, directeurs généraux de corporations, de sociétés, ils ont bien réussi dans la vie, mais ils ne suivent plus Dieu. Certains avaient été baptisés parce que c'était la chose à faire. Et encore de nos jours, même dans l'Église, souvent, des jeunes, même qui viennent à l'Institut du Fondement, souvent ils se disent « Oh, je dois me faire baptiser ». Je me souviens d'un jeune homme qui est venu me voir il y a quelques mois et qui me disait « Je veux me faire baptiser. Est-ce que vous pouvez me conseiller pour cela ?» Ma réponse a été la suivante, qui peut vous étonner. Je lui ai dit, vous êtes dans une bulle. Hein, tout est beau, tout est parfait, c'est comme à l'ambassadeur collège, hein, tout était beau, tout était, oh pas parfait, non, mais enfin tout était beau. Et on se sent poussé à faire des choses parce que le restant le fait. C'est comme le mariage. Nous avons beaucoup de jeunes aujourd'hui qui disent, il faut se marier. Tout le monde le fait et puis si je ne me marie pas, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Ce sont de grossières erreurs que vous devez souvent payer toute une vie. Nous avons beaucoup d'étudiants qui se sont, des étudiants de l'ambassadeur collège qui se sont mariés à d'autres étudiants de l'ambassadeur collège parce que c'est ce qu'on leur disait à l'époque. Beaucoup de ces mariages ont échoué. C'était pas quelque chose d'automatique, même chose avec le baptême. Ce n'est pas parce que tout le monde se fait baptiser, que vous devez vous faire baptiser. Dieu veut que ça vienne du cœur. Et si vos enfants ne sont pas prêts ou ne sont pas intéressés, ne les forcez pas. C'est un conseil que je vous donne. Alors nous avons un certain nombre de... Et vous savez, chaque pasteur ou chaque ministre qui a vécu un certain nombre d'années vous dira, honnêtement, qu'il a et j'ai baptisé des personnes qui sont parties après. Et je me suis rendu compte même aussi, après les avoir baptisés, peu de temps après les avoir baptisés, que Dieu n'avait pas accordé son Saint-Esprit à ces personnes-là. Il y a au moins deux personnes auxquelles je pense au Québec, et ces deux personnes étaient sincères, étaient... Et alors, vous savez, ils apprennent les réponses. Entre eux, les jeunes se disent, je me fais baptiser pour le baptême. Alors, si le ministre me pose telle ou telle question, qu'est-ce que je dois répondre? Alors, entre eux, ils se disent, voilà la réponse. Alors, bon, ils donnent la bonne réponse. Et un ministre n'est pas un devin. Si vous lui donnez la bonne réponse, vous êtes responsable de votre déclaration, de ce que vous dites. Le ministre ne peut pas lire votre esprit, ne peut pas lire ce que vous avez dans la tête. Et nous baptisons, nous faisons notre mieux en bonne connaissance de cause, mais quelquefois, même si nous baptisons la personne et lui imposons les mains, Dieu montre par la suite que lui n'a pas accordé son Saint-Esprit à cette personne. À nouveau, ce qui est important, c'est que tout vienne du cœur. La conversion, c'est cela, ça vient du cœur. Nous avons des gens dans l'Église qui ont été baptisés et qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et c'est comme cela depuis la fondation de l'Église du Nouveau Testament. Pour nous autres parents qui sommes convertis dans l'Église, quand nos enfants atteignent l'âge adulte, c'est un peu comme si Dieu entrouvrait une porte. C'est comme s'il entrouvrait une porte. Les invitant à venir à lui, mais sans les forcer. C'est à eux d'ouvrir la porte en grand et de la franchir, c'est leur décision. Trop de parents poussent leurs enfants à prendre la décision de se faire baptiser, et par la suite, leurs enfants abandonnent la foi. Cela s'est produit bien des fois dans notre histoire, comme je le disais. La même remarque s'applique aux membres de la famille que nous essayons de convertir. Non pas nos enfants cette fois-ci, mais les membres de la famille que nous essayons de convertir, les effrayant parfois, en leur disant ce qui va leur arriver s'ils ne se convertissent pas avant le retour de Christ. Il est clair d'après la Bible qu'il faut que leur esprit soit ouvert, que le Père les attire à Christ. Et un principe clé dont nous devons tenir compte, c'est que notre attitude et nos actes en disent plus long que le meilleur des sermons. Si nous donnons le bon exemple, vivant en bon chrétien, et ne forçant pas notre religion sur nos enfants inconvertis, ou sur nos proches, ou sur d'autres personnes à qui nous parlons, les résultats seront immanquablement meilleurs. Si nous les sermonnons en les avertissant de ce qu'il va arriver s'ils ne se convertissent pas, essayant de les effrayer, dans la plupart des cas, ils vont se rebiffer et avoir la religion en horreur. Et ils vont se mettre à en vouloir à Dieu et même à haïr Dieu ou la religion. Si leur esprit n'est pas ouvert à la vérité, ils ne comprennent pas de quoi vous voulez parler. Ma mère était catholique, 150%, si on peut être 150%, en général 100%, ça va, ça suffit, mais je dis ça par... c'est une image. Et j'essayais de lui expliquer pourquoi j'avais changé de religion. Et c'est comme si ça rentrait par une oreille et ça sortait par l'autre. Je me rendais compte que je lui expliquais des choses qu'elle ne comprenait pas. Elle me reposait la même question 20 minutes plus tard et je me disais, mais l'explication que je viens de lui donner, c'est comme si... C'est passé par une oreille et c'est sorti par l'autre et rien ne s'est produit entre les deux. Et c'est cela qu'il faut comprendre, c'est quand une personne nous appelle, lorsque Dieu nous ouvre la vérité, nous ouvre l'esprit à la vérité, Nous voyons les choses tout à fait autrement. Mais les autres, les gens du monde, et même souvent nos enfants, s'ils ne sont pas appelés, ils ne comprennent pas de quoi vous voulez leur parler. Ne forçons pas les choses. Ce que vous leur dites les déroute souvent. Notre comportement charitable et patient sera le meilleur et le plus convaincant des sermons. Votre silence est d'or. Jacques chapitre 1, verset 22. Jacques chapitre 1 et le verset 22. Jacques 1, 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était, oublie les rides qu'il vient de voir, les imperfections, il oublie tout ça. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, il ne s'agit pas de parole, se mettre à l'œuvre, pratique, celui-là sera heureux dans son activité. Et si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Tenir sa langue en bride. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Ce passage parle d'action et non de sermon. Et Jacques parle aussi de tenir notre langue en bride. Si nous agissons chrétiennement, nos enfants et nos proches et les gens du monde nous respecteront souvent, même s'ils ne sont pas du même avis. Nous avons donné à nos 5 enfants la même éducation. Et quand ils étaient jeunes, nos 2 aînés aimaient beaucoup l'Église. Mais par la suite, ils ont décidé de suivre une autre voie. Ils ne sont pas perdus pour autant. Ils avaient besoin de faire leur propre expérience. La porte s'est refermée. Dieu l'ouvrira de nouveau un jour en son temps. Ils ont reçu une invitation, mais ils ont décidé de ne pas l'honorer. Quand Dieu frappe à la porte, il ne la défonce pas. Ou bien nous lui disons « Entre ». Ou bien nous ne répondons pas. Et dans ce cas, il n'entre pas. Dieu est incroyablement poli et ne force personne à le suivre. Un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui a l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Romains 8, 9, on ne se place pas dans l'Église quand on le veut ni comme on le veut. C'est Dieu qui nous y place. À quiconque a des oreilles pour entendre, je l'ai déjà expliqué plus haut. Paul, s'adressant aux vrais chrétiens et non aux gens du monde, déclare « Nous sommes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car nous sommes un en Jésus-Christ, et si nous sommes à Christ, nous sommes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. » Galates 3, 26 à 29. Galates 3, 26 à 29. Mais c'est un choix divin. C'est Dieu qui nous place dans son Église. Nous sommes tous enfants de Dieu si nous avons été baptisés et sommes convertis grâce au Saint-Esprit, mais nos enfants ne le sont pas nécessairement. Il faut qu'ils le veuillent. Il faut qu'ils soient prêts. S'ils ne sont pas dans l'Église, ils ne se sont pas perdus pour autant. Être converti, c'est faire de Dieu son meilleur ami. Il est question de relations profondes, intimes, très personnelles et très individuelles. Quand Christ sera revenu, quand le royaume de Dieu sera établi ici-bas et que Satan et ses démons auront été écartés, ne pouvant plus influencer l'humanité, nos enfants non convertis et des milliards d'êtres humains ayant vécu dans l'histoire depuis Adam et par la suite auront leur chance. Ils ne seront plus séduits, ils se convertiront. Ils devront peut-être traverser des temps difficiles dans l'ère présente, mais il le faudra peut-être. Chaque être humain a son histoire. Chaque être humain a son propre cheminement. Chaque être humain doit faire sa propre expérience et atteindre le stade où, de tout son être, il comprend le besoin de suivre la voie divine et d'avoir les pensées divines. Si nos enfants, pour un temps, sont séparés de nous, dites-vous bien qu'ils ne sont pas perdus pour autant. Il y a de l'espoir, en fait, beaucoup d'espoir. Dieu, dans son immense sagesse et dans sa miséricorde infinie, a plongé la majorité des êtres humains dans l'endurcissement pour qu'ils ne soient pas entièrement responsables et pour pouvoir ensuite les sauver quand Satan aura été écarté. Et quel plan merveilleux ! Romains chapitre 11. Romains chapitre 11 et le verset 25, à partir du verset 25. « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. » Regardez comme c'est encourageant. « Tout Israël sera sauvé. » Quelle belle promesse, quelle prophétie extraordinaire. Tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur père. Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Et Dieu sait ce qu'il fait. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu avant que vous soyez convertis et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Le temps venu, le moment venu, quand Dieu le décidera. Et verset 32 maintenant. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Que c'est encourageant, que c'est merveilleux. Ô profondeur de la sagesse et de la science de Dieu. Que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Nous devons donc être très prudents dans la manière dont nous traitons nos enfants, comme d'ailleurs les non-convertis. En effet, Dieu ne les considère pas entièrement responsables. Leur esprit n'a pas encore été ouvert. Dieu, dans l'histoire, n'a appelé qu'un très petit nombre d'individus qu'il appelle ses prémices, les prémices de sa moisson finale. Et la moisson finale sera... Énorme. Si vous êtes converti, si vous avez le Saint-Esprit et que vous croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, comme l'a écrit Pierre dans 2 Pierre 3, 18, vous faites partie des prémices, 2 Pierre 3, 18. Aux vrais chrétiens, aux baptisés et aux convertis, Dieu dit par la bouche de l'apôtre Jacques, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Que c'est réconfortant. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Jacques 1, versets 17 et 18. Mais il parle ici des gens baptisés. Nos enfants ont le choix. Quand ils deviennent adultes et décider s'ils veulent poursuivre la voie chrétienne ou non, c'est leur choix. Notre histoire dans l'Église de Dieu prouve qu'un certain nombre ne l'ont pas fait. Comme je disais, deux de nos enfants ne l'ont pas fait, ils ne sont pas perdus pour autant, ils ne se sont pas engagés. Ils n'ont pas été baptisés, n'ont pas reçu le Saint-Esprit, leur conversion chrétienne est une affaire de profonde conviction, la conversion chrétienne. On n'est pas chrétien tant qu'on n'a pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu nous aide à penser comme Dieu. Nous avons dans l'Église des gens qui ne passent pas, qui ne pensent pas comme Dieu. Tout ministre vous dira que même lorsque quelqu'un est baptisé et reçoit l'imposition des mains, il n'a pas toujours reçu le Saint-Esprit, comme je l'expliquais. Quand nous essayons de forcer nos enfants ou notre entourage à se mettre à obéir à Dieu, souvent ils se rebiffent. Notre comportement et nos paroles sont les sermons les plus efficaces. Nous avons un article dans notre revue Discerner, notre sixième édition de 2022, qui viendra dans quelques semaines, et qui parle de cela. Un article intitulé « Soyez prêts à défendre votre espérance ». Et je vous conseille de le lire lorsque vous aurez, ça sera la dernière édition de cette année. Jésus, dans son sermon sur la montagne, énonce un principe important à propos de notre témoignage. Il dit « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens ». Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux de peur qu'ils ne les foulent aux pieds et ne se retournent et ne vous déchirent. C'est dans Matthieu 7, 6. Bon, ce principe doit être appliqué envers les personnes qui ne s'intéressent pas à la vérité ni à Dieu, mais aussi, dans une moindre mesure, à nos enfants, quand ils ne manifestent aucun intérêt pour la vérité, la religion ou Dieu. La vérité est une de ces choses saintes. Ne jetez pas vos perles au pourceau. La vérité est un joyau incalculable que nous devons prendre garde de ne pas jeter à des âmes qui n'en ont que faire. Quand il poursuit au verset suivant, il était question de Matthieu 7, quand il dit « Demandez, l'on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira ». Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Il faut déjà que la personne ou nos enfants demandent, cherchent et frappent à la porte divine, figurativement parlant, c'est une image. Il faut d'abord qu'ils recherchent Dieu. Ce qui éloigne parfois nos enfants de la vérité et les repousse, ce sont non seulement nos remontrances, nos leçons de morale, souvent injustifiés et nos mises en garde, mais aussi notre propre justice, et parfois même notre hypocrisie. Nous ne sommes pas parfaits. Nous avons ces défauts parfois. Rappelez-vous que chaque être humain a son propre cheminement, que Dieu l'appelle en son temps, et qu'il est très rare que nous le fassions changer d'avis ou que nous voyions les choses comme il les voit. Il sait quel est le meilleur moment pour nous appeler. Souvenons-nous d'Ésaïe 55,8. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme nous l'avons vu il y a quelques minutes, Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. C'est son plus profond désir. Une grave erreur que nous commettons parfois, c'est d'oublier que notre conversion, que toute conversion doit venir du cœur et être profonde, réelle, sincère, totale. Il doit donc y avoir un profond repentir, un repentir sincère et un désir intense d'obéir à Dieu et de renoncer aux voies de ce monde. Dieu est capable de protéger partiellement ou entièrement nos enfants ou nos êtres chers lors de la grande détresse qui s'annonce. Je répète, Dieu est capable de protéger partiellement ou entièrement nos enfants ou nos êtres chers lors de la grande détresse qui s'annonce. Beaucoup d'êtres humains vont devoir dégringoler au bas de l'échelle, devront atteindre le fond figurativement parlant, pratiquement tout perdre. Devenir des épaves, en quelque sorte, avant de se réveiller, avant de capituler totalement devant Dieu, de s'humilier et avant d'être prêt à être modelé par le divin maître potier. Mais cette vie physique n'est qu'une étape à franchir avant la vraie vie, la vie éternelle. Un choix doit être fait, Un caractère juste doit être formé en chaque être humain avant qu'il ou elle ne puisse entrer dans la famille divine. Nos enfants adultes qui ont grandi dans l'Église ne sont pas dans une catégorie à part quand ils n'ont pas frappé à la porte de l'Éternel, figurativement parlant. Ce qui est critique dans nos rapports avec nos enfants adultes, comme pour les gens du monde, c'est notre attitude. Notre attitude. En somme, ce qu'a dit Pierre s'applique à nous. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. 1 Pierre chapitre 2, verset 12. Ayez au milieu des païens ou des non-convertis, des gens du monde, une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme vous étiez des malfaiteurs, non pas que vous soyez des malfaiteurs, mais ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu maintenant? Non, au jour où il les visitera. Car c'est la volonté de Dieu, verset 15 maintenant, la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Étant libre sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, etc. Vous pouvez lire le restant du chapitre. Tite chapitre 2, verset 6. Tite chapitre 2, verset 6 maintenant. Tite 2, 6. Tite 2, 6 exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Pas de bons discours, pas de bonnes remontrances, mais de bonnes œuvres. J'insiste sur le fait que notre exemple est le plus important. Nous pouvons inspirer nos enfants, même s'ils ont grandi, même s'ils sont adultes maintenant, nous pouvons les inspirer les gens convertis par notre attitude, par notre voix, par notre chrétienté, par notre façon de vivre. Te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. 2 Timothée 2, 2 Timothée 2 et le verset 23. 2 Timothée, chapitre 2 et le verset 23. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Bon, cela, dans le contexte, s'applique aux membres de l'Église, mais c'est un principe qui s'applique aussi à tout, finalement, dans la vie. Repousse les discussions folles et inutiles. Parfois, nous avons des discussions folles et inutiles avec des gens qui n'ont pas l'esprit ouvert ou qui ne comprennent pas. Nous avons besoin de faire preuve de sagesse dans ce domaine. Il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles. Il doit au contraire être affable pour tous. Est-ce que nous sommes affables pour tous, propres à enseigner, doués de patience? Bon, il parle ici à Timothée, Paul parle ici à Timothée, un ministre, un pasteur, mais ce principe s'applique à tous les membres aussi. Il doit redresser avec douceur, le ministre, les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance, pour arriver à la connaissance de la vérité, et que, revenus à leur bon sens, ils se dégagent des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Matthieu 5, 16, ce sera notre dernier passage, Matthieu 5, 16, auquel nous nous reportons, Matthieu 5, 16. Et ça, c'est un principe important. Matthieu 5, 16, que votre lumière et non vos arguments, votre tapage ou vos discussions luisent ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient et non entendent vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Gardons-nous bien d'être hypocrites, comme l'a dit Paul, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Galates 6, 3. Le meilleur service que nous puissions rendre à nos enfants adultes, c'est d'être de bons exemples et de les inspirer par notre conduite, et non par des sermons ou des réprimandes ou des conseils non sollicités. Occupons-nous de nos affaires. Laissons nos enfants diriger leur vie. Nous avons d'assez bons rapports avec nos deux aînés qui ne sont pas dans l'Église et d'excellents rapports avec nos trois enfants dans l'Église. Parce que nous les laissons tranquilles et ne nous immisçons pas dans leur vie privée. Nous ne leur donnons de conseils que quand ils le demandent. Ce sont là des conseils que je vous donne, ayant cinq enfants, tous adultes et de bons citoyens. Ces conseils, comme vous pouvez le constater, s'appuient sur la Bible. Conclusion, nos enfants sont-ils tous saints à présent? Rappelez-vous, le mot « saint » signifie « mis à part pour Dieu », mis dans une catégorie à part. Donc Dieu, selon leur choix, peut commencer à travailler avec eux, mais c'est leur décision. Ils ne sont pas tous saints, seulement ceux qui sont encore au foyer familial ou qui, ayant atteint l'âge adulte, se demandent s'ils vont s'engager dans la vie chrétienne et entrer par la porte étroite qui leur est ouverte. Répondre oui à l'invitation que Dieu leur donne, car ils sont dans une catégorie spéciale et non comme les païens ou les gens du monde. Ils sont saints dans le sens qu'ils sont dans une catégorie à part. Mais c'est à eux qu'appartient le choix de répondre ou non à cette invitation. Assurons-nous que nous sommes de bons exemples, car ce bon exemple les aidera dans le temps présent ou plus tard, dans le monde à venir, à faire le bon choix. Je vous souhaite à tous une bonne fin de sabbat. Je vous souhaite bon courage et je vous dis au revoir et à bientôt.